donner la parole à Marie-Aimée, donc, qui est doctorante en codirection donc, à l'Université de Rouen et à l'Institut catholique de Paris, avec Emmanuel Falk, et qui donc, va nous parler de son sujet de thèse. Donc je vous laisse la parole immédiatement.
Merci. J'espère que vous entendez bien.
Très bien.
Donc, je vais vous parler, c'est le sujet de ce soir, qui est assez simple, ça s'appelle simplement phénoménologie de la liturgie. C'est vague et c'est vaste, mais je vais juste donner quelques bribes pour vous donner un peu l'ambiance de mon travail de recherche. Et effectivement, je le sais, assez original, mais j'ai vu que c'est un peu le cas pour tout le monde, donc cette journée était assez agréable pour moi pour voir des horizons très très divers. Donc nous allons entrer dans un autre horizon encore. Comment étudier la liturgie en philosophie? C'est vrai que c'est un peu étrange. Est-ce que ce serait pas introduire dangereusement de la théologie dans la philosophie? Est-ce que ce serait déroger au principe de bonne aloi d'un athéisme méthodologique? Certains interrogent parfois de la sorte et un peu le sourcil froncé de suspicion ou levé de perplexité. Donc je ne vois pas grand monde sur les caméras, mais j'imagine. Mais cette question se pose pourtant en fait comme ça seulement à celui qui n'a pas vraiment pris conscience que en réalité il y a un petit liturge qui sommeille dans chaque personne humaine du fait tout simplement que nous existons au monde, selon la formule donc désormais classique hein, des paragraphes 12 et 13 de « Être et temps » de Heidegger. Parce que mondaniser le monde, Welten, aménager le monde poétiquement ou même seulement techniquement, c'est déjà une certaine manière de le ritualiser. Alors, selon la dimension du ciel et des divins, ou bien à l'aune de la terre et des mortels, au fond, peu importe pour l'instant. Seulement, Heidegger n'a pas beaucoup tenu compte de ce qui aurait pu changer la donne de son monde. Et en tout cas, c'est la critique que formule Jean-Yves Lacoste à son encontre. Et Jean-Yves Lacoste, lui, a cru bon de se charger vraiment de cette question liturgique. Si oublié finalement du premier Heidegger, de Heidegger de être et bon, et si maltraité par le second, qui l'a réduit à l'ambiguïté d'un sacré néo-païen, qui n'a plus beaucoup de transcendance. Et c'est Jean-Yves Lacoste qui écrit ainsi dans un de ses maîtres livres, hein, Expérience et Absolue. Voilà ce qu'il dit à propos de Heidegger, de quadripartie. Dans le Gewirth, les mortels deviennent des familiers d'un sacré immanent et non d'un dieu transcendant. C'est en fait une phénoménologie de l'expérience païenne. Or, il y va dans cette charge proprement liturgique de ce qui rend le monde, en fait, non pas tant divin ou sacré, finalement, mais saint. Et par là même, en fait, plus humain, voire le plus humain. Et c'est là, en fait, que se situe l'intérêt philosophique, hein, proprement philosophique, de l'expérience liturgique. En fait, dans mes recherches, je me suis rendu compte que avant Lacoste, qui a misé toute son œuvre hein, sur une phénoménologie de la liturgie. Avant lui, il y avait déjà eu des prémices chez un auteur juif allemand du début du XXe siècle qui s'appelle Franz Rosenzweig et qui avait déjà eu l'audace d'introduire le mot liturgie dans sa philosophie en comprenant que la liturgie, si... bien sûr, elle peut nous annoncer Dieu, mais elle nous parle déjà et avant tout de l'homme. Parce que pour Rosenzweig, l'homme coram Deo, donc devant Dieu, c'est l'être en prière. Bien sûr, le liturge, c'est l'être en prière. C'est ce qu'il appelle lui l'orant, L'ORANT, donc celui qui prie. Mais cette phénoménologie de l'orant, disons, on pourrait dire ça comme ça, même si lui ne parle pas de la sorte, peut en tout cas nous aider à mieux penser l'homme, à mieux penser le monde et sans doute aussi, bien sûr, à mes pensées Dieu. En tout cas, c'est un phénomène universel qui est de tous les temps, de toutes les époques, de tous les lieux. Il y a des priants, des orants partout, même si ils sont parfois assez, enfin, même si ça peut être ponctuel ou un phénomène un peu unique, voilà. Mais c'est quand même un phénomène humain et un phénomène du monde. Et voici ce qu'écrit Rosenzweig, c'est un peu son intuition. Je le cite dans son ouvrage « L'étoile de la rédemption ». Si la prière qui ouvre à l'orant une fenêtre sur le monde le lui découvre réellement dans un ordre particulier, cela pourrait-il avoir quelques conséquences, que ce soit sur l'unique ordre divin du monde lui-même ? Donc, y aurait-il une conséquence sur le monde ? Voilà, est-ce que la prière ouvre un monde d'une manière particulière qui aurait des conséquences, des effets ? Je continue la citation. Y aurait-il une force dans la prière qui pourrait intervenir tyranniquement dans le cours du monde jailli de Dieu depuis la création ? Si la prière n'est en son essence rien d'autre que prière pour être illuminée, éclairée soi-même, et si donc l'illumination est la suprême réalité qui puisse être accordée à l'orant par la force de sa prière, comment la prière pourrait-elle intervenir dans le cours des choses ? L'illumination ne semble survenir qu'à l'orant, ses yeux sont illuminés, mais alors qu'importe au monde ? Donc la question, c'est vraiment celle du rapport entre la liturgie et le monde, chez Rosenzweig, en tout cas c'est comme ça qu'elle se pose. La prière change-t-elle le monde ? Ou plus exactement, notre vision du monde, alors comme on a parlé de la Weltanschauung tout à l'heure, c'est vrai que ça résonne. Hein. Et c'est vraiment cette idée-là. Est-ce que, si c'est juste une lumière individuelle à l'intime de l'âme qui est incommunicable, de l'ordre d'une mystique, en quoi cette expérience serait-elle encore mondaine ? Serait-elle encore du monde ? Mais si la prière est bien un phénomène du monde, puisque le Coram Deo caractérise l'homme dans le monde, alors il y a des effets, ou bien il y a quelque chose qu'on peut décrire, il y a quelque chose qui peut être partagé, partageable. Mais quel monde ? Alors quel ordre du monde manifeste-t-elle ? Et Rosenzweig va, dans sa recherche, affirmer d'emblée ce monde, le monde ouvert par la liturgie. C'est un monde où le temps prend une dimension d'éternité. Bref, c'est un monde où le sens est donné par l'eschaton, l'eschatologie. Et c'est intéressant de voir que... donc qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ma grande question, c'est ça. Ça veut dire quoi, un monde qui trouve son sens à l'aune de l'eschatologie, sachant que, justement, Heidegger va... si je peux dire, pomper Rosenzweig, mais en le sécularisant. Et donc, il va essayer de faire une eschatologie sécularisée, avec toute son idée de nouveau commencement, des Raïnis, etc. Et c'est très intéressant de voir, enfin, en tout cas, plus je lis Rosenzweig, plus je me dis que c'est pas possible. Enfin, il a vraiment repris beaucoup de choses, Heidegger, mais il a enlevé la substantifique moelle qui est chez Rosenzweig, qui est justement... un caractère de révélation, en fait, qui est au centre de la pensée de Rosenzweig. Donc, c'est vrai que moi, ma question, c'est un peu ce travail-là, de chercher, et sachant que Jean-Yves Lacoste, lui, il s'appuie sur, enfin, comment dire, sur l'œuvre de Heidegger, mais pour montrer comment la liturgie vient la subvertir, hein, parce que la grande critique de Lacoste, c'est de dire que, justement, il faut réintroduire la liturgie dans le monde heideggerien, et en fait ça fait exploser ce monde parce qu'il n'a pas été pensé, c'est l'impensé si vous voulez de Heidegger, mais qui vient subvertir le monde tel qu'il est pensé par Heidegger. Alors la manière de donc qu'a Jean-Yves Lacoste de faire des quelques esquisses de Rosenzweig vraiment l'enjeu principal de sa réflexion part aussi du même constat qu'il y a dans le monde, qu'on le veuille ou non, du priant, de l'orant, du Coram Deo, et les deux en fait ont une influence kierkegaardienne, hein, puisque le Coran Deo, c'est un des leitmotifs de Kierkegaard, en fait, au départ. Pas au départ, parce que ça vient de Saint-Augustin, mais je veux dire qu'il a été vraiment repris et, en philosophie d'une manière très, très prégnante chez Kierkegaard. Passer d'Augustin à Luther, etc., et de la théologie à la philosophie par Kierkegaard. Voilà. Alors, justement, c'est intéressant que Lacoste utilise ce terme Coram Deo pour parler de liturgie, donc le devant Dieu, être devant Dieu, et non pas d'homo religiosus, ou, par exemple, comme Otto, ou dans le style sociologie des religions avec Mircea Eliade. Mais lui, ce qui l'intéresse dans cette idée de l'homme devant Dieu, c'est vraiment la question relationnelle de la liturgie comme relation à l'absolu, et non pas simplement comme simple cultuel ou simplement rituel. Voilà. Même si le cultuel et le rituel, bien sûr, font partie de la liturgie, mais chez Lacoste, il y a vraiment cette idée d'un face-à-face, qui lui vient peut-être aussi d'ailleurs encore de Kierkegaard, et alors que chez Rosenzweig, ce Coram Deo, il est beaucoup plus communautaire d'ailleurs, je vais juste une parenthèse, mais ce qui est intéressant chez Rosenzweig, la liturgie, c'est de l'ordre du nous tous devant Dieu. Chez Lacoste, il parle aussi de cette dimension, mais elle est beaucoup moins imprégnante dans ses analyses. Elle existe, hein, il y a le nous aussi, mais c'est un peu moins prégnant. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, avec la liturgie, le Dasein heideggerien ne suffit plus à dire l'homme. L'angoisse de l'être vers la mort n'est plus la principale disposition ontologique, et la temporalité devient transformée parce qu'elle est tendue entre justement le mémorial et l'eschaton. Et pour Lacoste, en fait, monde et terre, qui sont un peu les deux manières, les deux modalités, chez Heidegger, il y a l'être dans le monde, et puis il y a ce que Lacoste appelle l'être à demeure, c'est-à-dire celui qui est dans le Gewirth, là, ce quadriparti, qu'on a traduit avec la Heimat, la patrie, le fait d'habiter poétiquement le monde, que je pense qu'on pourrait traduire plutôt par terroir, peut-être que par patrie, mais enfin bon, après, il y a tout l'arrière-fond, on l'a vu ce matin, du national-socialisme, bien sûr, qui est derrière les années 2030 néo-païennes de Heidegger. Je ne rentre pas dans ces détails-là, mais c'est simplement pour dire que entre l'être au monde dans l'angoisse de la mort et l'être sur son terroir ou à demeure, pour qui habite poétiquement le monde dans une certaine sérénité, disons, la liturgie propose autre chose, enfin, propose un tiers, quoi, pour Lacoste. On peut sortir de cette espèce d'ambivalence. Parce que avant d'être étranger selon le monde et sur le mode de l'angoisse, ou familier selon la terre et sur le mode de la sérénité, nous sommes d'abord là, corporellement là, affectés là, et nous sommes surtout d'abord un lieu, finalement. Nous sommes nous-mêmes un lieu, pour Jean-Yves Lacoste, un lieu qui n'a donc pas à se donner soit comme monde, soit comme terre, bien qu'ils se contredisent l'un l'autre, mais comme plutôt la transgression et du monde et de la terre, parce que la liturgie se donne à penser en termes de lieu, elle nous fait poser des gestes, bâtir des édifices, et pourtant, note Lacoste, celui qui prie est symboliquement nulle part. Donc, il devient lui-même, en fait, un lieu, mais il est en même temps aussi un non, enfin, il y a un non-lieu en même temps dans cette rhétorique, on va dire, de la spatialité chez Lacoste par rapport au liturge. Le liturge, il a un lieu sans lieu. Le lieu du liturge n'est plus tout à fait dans le monde, mais plutôt à la marge du monde, du mondain. Il y a une sorte d'époquée aussi du monde, du mondain qui est demandé par la liturgie. Quand on entre en liturgie dans une église, dans un temple, dans une synagogue, etc., dans une pagode, genre, ouais. Mais il y a quelque chose de, on est dans un peu un autre monde, enfin, on est à la marge de, c'est pas le monde habituel, banal, il y a quelque chose d'autre qui se passe, et on le sent dans la manière dont les choses sont agencées, dont le mobilier est agencé, et en même temps, on n'est pas non plus tout à fait selon la terre, ou selon un terroir, ou c'est, l'assemblée liturgique n'est pas une assemblée culturelle, ni de sensibilité, ni même de sensibilité en fait religieuse. Hein. Y a plus que ça. Y a une universalité. Y a des gens très différents de tous les styles, etc., qui peuvent se retrouver dans une liturgie sans que ce soit le même terreau culturel, disons, ni même la même langue. Et donc pour Lacoste, la liturgie nous fait penser le lieu non seulement comme un habité, mais comme donc un être tourné vers, ce qu'il appelle un orienté. Donc l'orienté, c'est justement ce coram Deo, être tourné vers Dieu, devant Dieu. Et donc au lieu d'être vers la mort, si vous voulez, chez Lacoste, on devient être vers Dieu. Il dit qu'il faudrait essayer de penser le lieu à partir de la relation. Je vous lis une citation de Lacoste dans Le monde et l'absence d'œuvre, qui est très claire, il me semble. Voici ce qu'il écrit. Pour autant que nous nous rendions capables de penser Dieu ou de penser à Dieu, que ce soit dans un monde par définition séculier ou sur une terre par définition enchantée, nous nous rendrons aussi capables d'hésiter pour ou devant Dieu, coram Deo. Et parce que monde et terre sont premiers, cette capacité sera en fait celle d'une surdétermination des conditions natives de l'expérience. On peut donner un nom à cette surdétermination. Nous dirons par convention que le Dasein et le mortel sont capables de liturgie. La liturgie échappe au rythme oscillant qui unit profanité et sacralité, monde désenchanté et terre lumineuse. Elle est œuvre libre de rupture. La liturgie laisse le monde derrière elle parce qu'elle subordonne la relation d'inhérence, donc d'inhérence au monde, à la terre, à une relation d'affrontement, coram, devant Dieu. Elle laisse la terre derrière elle parce qu'elle ne peut se satisfaire de l'eschatologie de substitution que lui offre la protection présente du sacré. Donc là, il y a une petite pique contre l'eschatologie, c'est que l'arrivée de Vega. La liturgie n'a pas lieu ailleurs que dans le monde et sur la terre, mais dans le monde ou sur la terre, elle ouvre un nouvel espace et un nouveau rapport au réel. Symboliquement, l'homme liturge anticipe ici ou là ce que la théologie pense sous le concept de royaume. Voilà, fin de citation. Alors, justement, c'est intéressant dans ma recherche parce que le concept de royaume, il est très présent chez Rosenzweig, il est plus allusif chez Lacoste, mais c'est là que ça se force parce qu'il s'agit justement... Si on commence à parler de royaume en philosophie, il va s'agir de décrire phénoménologiquement un phénomène qui est hors monde, mais qui n'est pas un hors phénomène, puisque justement il a des modalités dans la liturgie de manifestation. Sachant que la notion de royaume, on la retrouve dans la philosophie, chez plein d'auteurs en fait, autant d'Augustin avec l'idée de la cité de Dieu jusqu'à Einstein, le royaume de lumière, mais même chez Hegel, il y a des notions de royaume qui sont très claires, et jusqu'à aujourd'hui, par exemple, dans la philosophie de Agamben. Donc voilà, c'est une notion qui n'est pas du tout étrangère à la recherche en cours aujourd'hui, et ni à la philosophie elle-même. Mais c'est vrai que c'est des notions à prendre avec des pincettes, si je puis dire, et donc c'est ça mon travail dans ma thèse. Je vois qu'il reste plus 5 minutes, donc je vais juste terminer ce que je veux vous dire. Je veux simplement dire voilà, que chez Lacoste, justement, ce qui est intéressant, c'est que le profane ou le sacré ne suffisent pas pour dire l'humain. Il faut aussi le saint, donc le royaume, disons, et la liturgie nous parle de cela, nous manifeste cela, avec cette idée d'une relation à l'absolu, qui peut être, dit Lacoste, le premier et surtout le dernier mot de ce que nous sommes. La liturgie serait alors un ce que Lacoste appelle un plus qu'exister, donc un refus libre d'exister seulement sur le mode du Dasein ou du mortel, mais une recherche d'une plus qu'existence un horizon autre que celui du monde, ou rendant flou l'horizon du monde, dit Lacoste. Un peu à l'image de l'œuvre d'art, par exemple. On a parlé de Cézanne ce matin, c'est vrai que dans l'œuvre d'art aussi, il y a quelque chose de ça. On est dans le monde, mais ça nous dévoile autre chose, ou le monde autrement. Voilà, donc il y a un peu cette même idée, là, dans la notion liturgique d'ouverture du monde. Et donc, simplement, quelle est cette ouverture? Est-ce que c'est une transgression? C'est ce que dit Lacoste. Est-ce que c'est pas plutôt une saturation, si je parle comme Marion? Est-ce que c'est une métamorphose du monde, si je parle comme Emmanuel Falk? Est-ce que c'est une rédemption, si je parle comme Rosenzweig? Voilà, il y a plusieurs possibilités de penser cette manifestation liturgique. Et ça aussi, c'est encore un chantier dans lequel j'essaie de travailler, d'opérer. Et je vais terminer aussi en disant que, bien sûr, il y a tout un... Là, je vais parler plutôt du lieu, la notion de lieu, parce qu'il me fallait que je prenne un exemple, je peux pas parler de tout, mais bien sûr, la liturgie transforme aussi notre rapport à autrui, notre rapport au corps, notre rapport... Enfin, il y a plein de champs. Et comme on a parlé de l'attention tout à l'heure, c'est vrai que j'aimerais bien juste dire aussi que la question du corps en liturgie va bien sûr aussi rejoindre des analyses de l'attention, notamment avec ce que Nathalie Deprat écrit dans Les corps glorieux aussi, ça m'intéresse, autour des gestes, des paroles, des questions concrètes de l'attention, des dimensions émotionnelles, communautaires, imaginaires du corps. Et avec cette idée que l'attention est entendue comme une qualité de présence, mais aussi peut-être comme une présence à la présence, du coup, en liturgie. Est-ce qu'il y aurait une attentionnalité liturgique? C'est une question aussi pour moi. Non pas simplement investir le sens du quotidien, mais recevoir le sens d'un ailleurs absolu. Voilà, est-ce que et justement, comme dans l'attentionnalité, c'est dans l'anticipation que nous pouvons le faire. Et là, c'est une anticipation particulière dans la célébration liturgique. Une anticipation que Rosenzweig décrit ainsi. Les figures de la liturgie anticipent, c'est d'une réalité à venir qu'elles font un aujourd'hui. Elles ne sont pas des clés mathématiques, ni le langage, la grammaire de leur monde, elles sont un substitut. L'éternel se cache derrière elles, elles sont la lumière par laquelle nous voyons la lumière, l'anticipation silencieuse d'un monde qui brille dans le silence de l'avenir. Il faut bien comprendre que ce n'est pas l'anticipation d'un arrière-monde, mais c'est l'anticipation d'un monde qui est toujours en train de venir, en fait, d'advenir. Hein. Parce que le royaume, c'est ça, c'est la définition du royaume, c'est un monde qui est en pleine advenue, en fait. Et non pas quelque chose qui sera pour plus tard. Voilà. Voilà, donc je termine avec cette idée d'attentionnalité, d'anticipation du royaume. Et je termine, parce qu'il me reste plus qu'une minute, en citant au moins... Merleau-Ponty, parce que Merleau-Ponty dit ceci dans Sens et non-sens: il s'agit pour nous de retrouver la transparence de Dieu. Il ne s'agit plus de retrouver en deçà du monde la transparence de Dieu, il s'agit d'entrer corps et âme dans une vie énigmatique dont les obscurités ne peuvent être dissipées, mais seulement concentrées en quelques mystères où l'homme contemple l'image agrandie de sa propre condition. Reconnaissance d'un mystère dans les relations de l'homme et de Dieu. Et donc c'est cette question que la liturgie ouvre, donc d'une vie énigmatique, d'une énigme ou d'un mystère. Et je termine parce que ça paraît. Non pas simplement d'une transcendance dans l'immanence, ce qui est le reproche que faisait Lacoste à Heidegger, mais d'une transcendance dans la manance, c'est-à-dire dans la demeurance, dans la présence, dans l'attention à la présence. Voilà.
Merci beaucoup, Sœur Marie-Aimée. C'était un très très bel exposé qui permet vraiment de... Hop, en plus que je me connecte. Voilà, merci pour ce très bel exposé qui, je pense, permet vraiment de rentrer dans un espace, évidemment, que beaucoup peut-être ne partagent pas, mais qui permet quand même de le faire partager. Et donc je trouve ça, c'est un tour de force, c'est magnifique. On va être coupé, donc j'ai beaucoup de choses que j'aurais aimé dire et qu'on va pouvoir reprendre ensemble. Je vous propose qu'on se retrouve dans cette salle, qu'on se reconnecte dès que possible. Voilà, on se retrouve très vite, ça va couper, à moins qu'il y ait un miracle. Mais je ne crois pas au miracle technique. Allô, allô? Voilà, c'est
Voilà,
parfait.
c'est parfait.
Bon, bah finalement, ça n'était qu'un. Un petit espace-temps virtuel intermédiaire sans conséquences immédiates. J'avais jamais expérimenté cela, donc ça prouve que j'ai pas fait pour l'instant de cours aussi long. Mais donc c'est plutôt rassurant. On ne s'est pas perdu de vue très longtemps, je trouve. Ça a été assez rapide. Donc on est reparti pour un nombre d'heures conséquent maintenant. J'ai laissé l'enregistrement courir, donc voilà, il y aura pas de, il y aura une petite interruption d'une minute et quelques seulement par rapport à l'échange, c'est pas très grave. Donc merci à toutes et tous d'être revenus illico, c'est parfait. Moi, je voulais vous soumettre une citation, Marie-Aimée, pour peut-être amorcer notre échange. Et puis ensuite donner la parole évidemment à tout le monde. C'est une phrase qu'on trouve dans un texte que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. C'est un théologien serbe, en fait, contemporain, qui s'appelle Maxime Vassilievitch. Comme ça se prononce. Donc je vais vous l'écrire sur le chat. Maxime Vassilievitch. Vassilievich, Maxime Vassilievitch. Donc, il a écrit un livre qui est en anglais, qui s'intitule, qui m'intéresse beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi. Ce livre s'intitule Theology as a Surprise. La théologie comme surprise, c'est le titre de son livre. C'est un livre qui est paru en 2018, donc aux États-Unis. Je pourrais vous donner la référence. Enfin, c'est facile à trouver. Et dans ce livre, à un moment donné, il a une citation que j'ai extraite pour ce que je suis en train d'écrire, mais qui va vous intéresser directement, où il dit, de façon très simple, vivre sur un mode eschatologique, cela signifie permettre à Dieu d'entrer dans l'histoire, non seulement à sa fin, mais à tout instant. Et je trouve que ça ouvre, en fait, pour tout vous dire, ça ouvre le dernier chapitre du livre que je suis en train d'écrire sur la surprise et qui traite de la théologie comme surprise. En fait, j'ai repris littéralement son titre parce que je le trouve excellent. Et donc, cette citation m'introduit juste à la question que je voulais vous soumettre, puisque vous avez à la fin évoqué justement la temporalité. Vous avez beaucoup parlé du lieu. Et aussi insister sur le rapport au corps, enfin souligner, enfin en tout cas évoquer le rapport au corps et le rapport à la communauté, etc. Mais évidemment, la question du temps est décisive également dans cet ordre d'idées, on va dire. Et c'est vrai, quand on parle de l'eschaton, donc ce terme grec qui n'est pas forcément familier à toutes et à tous ici, mais on pense souvent, enfin de manière caricaturale, quand on dit eschaton, on pense aux fins dernières, la fin des temps. Donc le royaume, justement, comme le royaume à venir, hein, très souvent aussi, c'est comme ça qu'on s'exprime. Alors vous avez bien dit, justement, qu'on était dans une logique d'anticipation et que du coup il y avait une préfigure, enfin une anticipation à travers les célébrations liturgiques elles-mêmes en fait, hein, de ce royaume à venir. Mais il me semble que quand on s'exprime ainsi, on reste encore dans une logique où on va effectivement essayer de récupérer quelque chose, on va essayer de désamorcer l'idée que ça ne se passe pas à la fin, mais qu'il faut l'anticiper. Donc en fait, on essaie de réamorcer quelque chose qui ne serait pas un avenir indéterminé, comme on le pense souvent dans une logique temporelle standard, où on va avoir le futur, l'avenir qu'on ne connaît pas, le passé qu'on connaît, et le présent qu'on n'arrive pas à saisir parce qu'il nous échappe toujours, comme le dit déjà saint Augustin, hein, quand on cherche à y être, on n'y est déjà plus, et quand on n'y est pas encore, justement on n'y est pas encore. Et du coup, cette citation me ramène à l'idée que y a toute une façon de repenser finalement cette dimension eschatologique qui est très présente dans la théologie orthodoxe, par ailleurs, comme vous le savez, comme une relation à ce qui se passe au moment où ça se passe, donc dans un présent, dans un moment présent, et à éviter de... donc à sortir complètement d'une logique même d'anticipation, aller même au-delà de l'anticipation, si je puis dire, ou en deçà de l'anticipation, et en étant aussi dans une dimension où on ne va pas forcément considérer que, comment dire, la liturgie, c'est, comme vous avez parfois dit, est un ailleurs ou un hors-monde, ou n'est pas de ce monde, ou avec le risque de penser cet espace comme un espace qui est difficile d'accès, qui ne nous concerne pas parce que finalement on n'y a pas accès, ou en tout cas il est difficile, alors que il y a toute une autre compréhension théologique qui est portée, je pense, majoritairement quand même par l'orthodoxie contemporaine, qui insiste beaucoup sur le fait que, c'est cette citation de ce théologien serbe qui me fait penser à ça, que vraiment la liturgie, c'est justement, c'est ici et maintenant. Et c'est, et le royaume, c'est ici et maintenant. On est dans un hic et nunc, dans ce que Husserl appelle le présent vivant, en fait, aussi, si on veut ramener des concepts phénoménologiques également, et pas dans quelque chose qu'on doit attendre, ni qu'on doit anticiper. Vous voyez, enfin, alors je comprends bien, le geste est tout à fait valeureux, enfin, d'essayer de désamorcer les fins dernières en disant oui, non, mais non, en fait, c'est à venir, mais ça, c'est l'advenu, mais c'est à venir, mais on va anticiper. Mais voyez, enfin, je trouve que c'est encore maladroit. Enfin, alors c'est pas vous qui êtes en cause, hein, parce que je pense que même Lacoste ou Rosenzweig sont peut-être pas complètement encore là. Enfin, je sais pas. C'est une question. Bon, c'est une question très ample. Enfin, donc répondez comme vous voulez.
Oui, mais c'est tout à fait intéressant. En fait, on n'arrête pas d'osciller tout le temps entre le mémorial du passé, l'anticipation de l'avenir et le moment présent. Chez Rosenzweig, il y a déjà l'idée du hic et nunc. Par exemple, avec cette idée de l'instant, il reprend ça à Kierkegaard, et dans la liturgie, dit-il, la temporalité est transformée par l'intrusion de l'éternité dans le temps. Du coup, il y a une sorte de... Enfin, il appelle ça comme ça, il dit que l'instant prend une densité qui fait qu'il devient une heure. Alors ça, c'est très intéressant, je pense que... Mais lui-même va parler après des figures de l'anticipation, etc. Donc, il garde quand même cette idée d'un royaume à devenir, mais qui est anticipé dans l'instant. Mais ça reste effectivement une advenue qui est quand même encore en train d'arriver, qui est à l'approche, mais qui n'est pas forcément proche. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on pourrait lui faire cette critique. Je pense qu'elle est encore plus forte chez Lacoste. Parce que chez Lacoste, on est vraiment dans l'entre-deux. Parce qu'entre le juif Rosenzweig et le catholique, si je puis dire, Lacoste, c'est pas encore autre chose que les orthodoxes, justement. Parce que dans la philosophie juive, il y a quand même une idée que le peuple porte quelque chose du royaume dans le aujourd'hui du monde, voilà, qui est plus prégnante, disons, que dans... dans la théologie chrétienne catholique, où on attend quand même le royaume à venir, on attend la parousie, même s'il y a aussi l'attente du Messie dans le judaïsme, bien sûr. Mais, donc il y a quand même dans le judéo-christianisme l'idée d'une attente qui est là. Donc tout n'est pas déjà. Enfin, tout est déjà advenu, par exemple, dans la résurrection du Christ, et en même temps, on attend quand même encore la parousie. Donc déjà, il y a des paradoxes comme ça, rien qu'en théologie. Qui forcément se retrouve après en liturgie. Mais ce qui m'intéresse, comme vous, j'avoue, c'est cette idée que il y a quelque chose qui se passe maintenant, qu'on n'est pas obligé d'attendre la fin des temps pour arriver en relation avec l'absolu, et que la liturgie parle de ce maintenant. Elle est à la fois autre. Enfin, elle montre quelque chose qui est à la fois un peu autre, un autrement que le banal, disons, et en même temps, elle parle de ce maintenant. Alors, j'aime bien cette idée de l'heure chez Rosenzweig, parce que c'est une notion que je n'ai pas trouvée chez d'autres auteurs philosophiques. C'est une notion qui existe dans l'Évangile, l'heure, le Christ à son heure, son heure n'était pas encore venue, etc. Voilà. Mais c'est une notion qui est intéressante parce que c'est une notion caïrologique et non pas chronologique. C'est-à-dire que l'heure, ce n'est pas le tic-tac de l'horloge, ce n'est pas les instants successifs. Quand on dit c'est son heure, c'est quelque chose de l'ordre d'un accomplissement maintenant qui se renouvelle et qui est à la fois un accomplissement et un commencement. Donc c'est ça qui est très intéressant dans cette notion d'heure, de transformer l'instant en heure. C'est Rosenzweig prend l'image du tic-tac de l'horloge. Il dit voilà la sonnerie des cloches à l'église. Alors, c'est drôle parce qu'il prend une image chrétienne, mais il dit la sonnerie des cloches dit que c'est l'heure, mais c'est pas la même chose que le tic-tac de l'horloge. Voilà, elle est en train de montrer qu'il y a une temporalité particulière qui est en train de se mettre en place. C'est un appel, c'est une temporalité qui appelle une vigilance, une attention, etc. Mais qui est pas de l'ordre de, enfin qui est de l'ordre d'un kairos et non pas d'un chronos. Voilà. Donc, mais j'entends bien cette idée de, il faut à la fois tenir, c'est toujours le paradoxe, il faut à la fois tenir que ça se passe dans le monde, que c'est maintenant, qu'effectivement le royaume c'est aujourd'hui, quoi. Enfin, la relation à l'absolu c'est maintenant. On peut, ça peut toujours être. Justement parce que c'est l'absolu, donc il n'est pas dans le temps, quoi. Il ne peut pas être relatif à une horloge. Mais en même temps, nous sommes dans le monde, nous sommes des êtres temporels, etc. Et fini. Donc il faut tenir les deux, et c'est ça qui est intéressant, je pense, dans cette idée de. En fait, dans l'idée du royaume, c'est ça qui m'intéresse, parce que le royaume, il tient. C'est un concept, une notion qui tient les deux, qui tient à la fois l'idée d'une approche, le royaume est en train d'advenir, et puis qui garde l'idée de l'entre-deux, parce que c'est aussi le royaume à venir. Je dirais comme ça pour l'instant, mais je ne réponds pas à la question.
Tout à fait. Non, mais j'entends bien, et c'est vrai que sur cette notion de royaume, on en a déjà parlé, mais. Dans le texte de cet autre théologien, cette fois russe, donc qui s'appelle Alexandre Schmemann, on a justement cette idée que le royaume, enfin, c'est quelque chose qui se réalise à chaque liturgie.
Voilà.
En fait, qui est présent, il est là entièrement, au fond, à chaque liturgie. Donc, on n'a rien à attendre d'autre que ce qui se passe à chaque liturgie.
Voilà. Donc, c'est vrai que dans l'idée de sacrement, par exemple, il y a aussi cette idée-là. Enfin, c'est-à-dire que c'est, enfin, on n'aura pas plus Dieu au ciel, si je puis dire, qu'on l'a maintenant.
C'est ça.
Dans
c'est
la liturgie, il se donne en entier. Il ne se donne pas à moitié, un petit peu.
Voilà.
Se donne en entier. Simplement, on a une appréhension, une sensibilité qui n'est peut-être pas tout à fait entière, puisque justement, ça reste dans le clair-obscur, comme dit. Ou dans la non-expérience, une espèce d'expérience d'inexpérience, de non-expérience, parce que Dieu, on ne sent pas, En tout cas, il n'est pas toujours sensible au cœur, même si ça peut lui arriver, comme dit Pascal. Mais donc, il y a ça. C'est à la fois... J'aime bien l'idée de réalisation, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire et de s'accomplir aussi. Et puis, il faut tenir cette idée qu'au niveau... que l'effectivité est d'une certaine manière complète, mais la sensation, la sensibilité, l'apparition ne l'est pas forcément. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'au niveau... Enfin, bien sûr, c'est tout côté phénoménologique, il y a de l'invisible, de l'insensible, de l'inaudible, mais ça ne veut pas dire que la réalité n'est pas là.
Oui, tout à fait. C'est pour reprendre l'expression de Jean-Luc Senèze à propos de la perception... de la photographie, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant où on peut se dire qu'en fait, comment dire, dans cette notion, dans cette expérience du royaume, tout est donné, en fait. Tout est donné, là en l'occurrence dans un cadre comme celui de la liturgie, tout est donné à nous d'y être, en fait. À nous d'y être. Si nous n'y sommes pas, finalement, voilà, tout est donné. Mais c'est peut-être l'homme qui n'est pas au rendez-vous, en fait, vous voyez, c'est peut-être dans l'autre sens que ça se passe, plutôt que de se dire on attend quelque chose qui est invisible et qu'on ne voit pas. Mais c'est comme de notre façon, c'est une analogie, mais c'est comme avec, j'ai beaucoup travaillé avec des médecins psychiatres qui s'occupent d'enfants qui ont des troubles autistiques, et en fait l'expérience absolument incroyable que certains médecins font, c'est que si l'enfant à qui on demande si ça va et qui ne répond pas, qui ne dit rien, on va se dire que cet enfant est vraiment problématique, il ne répond pas, il n'est pas en relation, tant qu'on n'aura pas compris qu'en fait, c'est nous qui ne posons pas la bonne question. Vous voyez, c'est nous qui n'y sommes pas. Enfin, c'est intéressant d'inverser, enfin, et de se dire au fond... où est chacun? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas l'humain qui n'y est pas, le médecin psychiatre qui n'y est pas, et qui du coup rend impossible l'expérience en réalité?
Enfin, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Ça me fait penser à deux choses. La première, c'est une citation de Madeleine Delbrel, qui est une écrivaine, au moment d'une écrivaine, enfin un écrivain. mystique aussi d'ailleurs, qui avait formulé une prière étrange en disant Seigneur, comment se fait-il si vous êtes là que je sois si souvent ailleurs. ça c'est la première chose à laquelle j'ai pensé en vous écoutant. Et la deuxième chose, c'est la figure de l'anamorphose chez Jean-Luc Marion, parce que je trouve ça intéressant. En fait, Marion montre que certains phénomènes, et notamment les phénomènes de l'ordre peut-être de la révélation, mais en tout cas les phénomènes saturés, je l'ai dit, sont souvent reliés, ils les voient sur le mode de l'anamorphose, c'est-à-dire qu'en réalité, si on n'est pas au bon endroit, on ne les voit pas, il faut être à un certain endroit pour voir l'anamorphose, sinon on voit un truc un peu flou, mais on ne voit pas que ça donne une figure, enfin qu'il y a une figure, on ne voit pas qu'il y a une structure, on ne voit pas que c'est un dessin, etc. Et donc il en a fait un concept, et je trouve que c'est un concept qui est assez, assez parlant pour des choses du domaine, disons, du monde de la foi, on va dire ça comme ça. Si on parle c'est Wittgenstein qui parle de la fidèle c'est le monde de la foi, et pour dire justement que certaines choses, on peut les appréhender que à si on est à la bonne place. Et alors voilà, où est la bonne place du liturge? Voilà, c'est une question. Bien sûr, c'est une idée. Mais je pense que c'est qu'il y a quelque chose de très juste. Il y a plein de choses en fait qui. C'est ça, c'est donné. L'anamorphose, c'est le dessin est donné, le dessin est là. C'est juste nous qui n'y sommes pas, jusqu'au moment où on découvre le point de vue en fait. Le point de vue qui va permettre la vision. L'apparition du phénomène.
Tout à fait. On a quelque chose, juste pour prolonger ce que vous dites, et à nouveau en forme d'analogie, mais ça va exactement dans le même sens, on a un peu le même type d'expérience, et qui là peut être vraiment donné à beaucoup de monde, en fait, de façon avec un minimum d'exercice. C'est ce qui se passe dans le cas d'une vision stéréoscopique. Quand
Oui,
vous avez un stéréogramme, vous pouvez aller chercher des stéréogrammes sur Internet. Voilà, c'est ça. On a une forme en deux dimensions, on a une figure en deux dimensions. Tout est donné dans cette forme, tout est donné dans l'image. Tout est construit objectivement dans les propriétés mêmes de l'image pour nous permettre de voir le relief, de voir les trois dimensions, le stéréos. Maintenant, c'est à nous de faire le travail d'accommodation oculaire qui nous permet de voir. Donc,
là-dedans, par exemple, il y a un cœur en trois dimensions, mais on ne le voit que quand on fait le travail avec les yeux.
Voilà,
soit je le disais parce que justement, à cause des visios, je dois rééduquer mes yeux.
Et voilà.
À force d'être sur Zoom depuis 2 ans, voilà, on fatigue.
C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Moi, je sais que la première fois que j'ai fait cette expérience, c'est une petite anecdote, mais elle est reliée à la thématique qui est là de immédiate. J'étais avec des scientifiques qui voulaient absolument me faire découvrir justement les stéréogrammes et la vision en relief. Et j'avais vraiment beaucoup de mal, en fait, j'y arrivais pas du tout, ça marchait absolument pas. J'avais un problème de lâchage, en fait, je pense, qui ne se faisait pas. Parce que c'est beaucoup lié à ça, hein, c'est beaucoup lié au fait de lâcher la tension oculaire aussi. Et j'y arrivais pas du tout. Et puis à un moment donné, on a parlé d'autre chose. Enfin, j'avais l'esprit ailleurs, donc inattentive, enfin au possible. Et c'est à ce moment-là, dans cet interstice, de manière totalement non mécanique, en fait, que c'est qu'a émergé cette forme pour moi. Ce qui a émergé, c'était un calice. Donc j'ai vu tout d'un coup que ça m'a sauté au visage, en fait. Le calice m'a sauté au visage, littéralement. C'était extrêmement étonnant comme expérience et totalement imprévisible, enfin, en tout cas dans les formats dans lesquels j'étais construite. Enfin, donc là, ça faisait vraiment ressortir le type de travail qui en fait n'en est pas un. Enfin, et qu'est-ce qui fait qu'on y est justement? Pour moi, c'est relié aussi à des formes d'attention. Qui ne relève plus du tout des modèles standards de la concentration, de la sélection, enfin, volontaire en tout cas, mais qui crée un espace autre de visibilité. Hein, c'est très fort, enfin, c'est vraiment étonnant.
Peut-être qu'effectivement, la prière est aussi cette espèce de lâchage. Mm. Parce que c'est vrai que les stéréogrammes, ça marche si on n'est pas trop fatigué, c'est ça.
Aussi.
Et après, c'est pareil, on peut s'endormir. Donc il y a peut-être. Oui, et là, j'ai pensé à un texte magnifique de Romano Guardini qui dit qu'un jour il rentre dans une sacristie, il dit: j'ai fait la rencontre du calice.
Ah oui.
Et en fait, il voit un calice donc sur sa tige avec la corolle du calice. Et il dit: ce jour-là, j'ai compris ce que c'était la phénoménologie de l'objet. J'ai fait la rencontre du calice et j'ai compris que c'est pas un objet, que l'objet sacré n'est pas un objet. On dirait c'est une chose, si on peut dire, c'est-à-dire quelque chose en relation. Parce que dans la forme du calice, il a saisi que tout le monde était compris, en fait, dans la corolle et offert et ouvert. Voilà. C'est très beau. C'est un très beau texte qui est dans son tout petit opuscule qui s'appelle les signes sacrés, le calice. Et donc c'est très fort parce que c'est très, très phénoménologique, parce que lui, c'est sa formation de départ, hein, aussi, et c'est un théologien, mais qui en fait qui parle en phénoménologue et qui est toujours étudié en théologien. Et je rêve un jour que quelque chose soit fait, mais je ne parle pas assez bien allemand, malheureusement, mais soit fait pour découvrir qu'en fait c'est d'abord un phénoménologue, et parce que voilà, il parle comme ça, j'ai fait la rencontre du calice, etc. C'est impressionnant.
Ouais, c'est superbe, très très belle, merci beaucoup. Nous avons une question de Jean-Luc Senez, alors qui était là mais qui a dû se déconnecter ou je sais pas, non, il est toujours là en fait, il a coupé son micro mais il est toujours là apparemment, et qui demande, il va sans doute revenir mais pour l'instant je pose la question pour lui. Est-ce une question de place, être à la bonne place, ou une tournure du désir?
Très belle question, magnifique. Mm. Sans doute, vous avez raison, sans doute, est-ce une tournure? C'est un vocabulaire qui plairait à Lacoste dans la droite ligne, là pour le coup, de Heidegger, mais autrement, justement, Lacoste est tout le temps en train de subvertir Heidegger, donc ça lui plaît. Une tournure du désir, oui, je trouve que c'est très beau, une très belle manière de dire. Il faut savoir que Lacoste est très marqué par Henri de Lubac, qui parle de l'homme capax dei, capable de Dieu, donc il y a toute cette idée du désir de Dieu qui est en l'humain, donc ça c'est vrai, que ça fait partie de son monde en tout cas, de réflexion. Mais bien sûr, c'est l'image de la place ou du lieu dans l'anamorphose, ça reste une image, bien sûr, mais sans doute est-ce une il faut avoir, là on revient à l'attente et à l'attention, parce que il faut attendre de quelqu'un pour lui donner attention. Si on n'attend rien de l'absolu, si on n'attend rien de Dieu, évidemment, s'il n'y a pas de désir, rien ne peut advenir, parce que dans la relation, c'est attendre d'autrui qui fait que c'est attendre quelque chose d'autrui qui fait que la relation peut se mettre en place, peut avoir lieu. Le jour où vous n'attendez plus rien de votre conjoint, de vos enfants, de votre collègue, d'une certaine manière, il y a quelque chose de mort dans la relation. Alors que peut-être que justement cette tournure du désir, c'est le fait d'attendre par notre attention, d'attendre quelque chose, d'attendre une surprise, que Dieu ait encore la possibilité de nous surprendre en fait. Si on n'attend rien de lui, évidemment, on passera toujours à côté. Mais si on lui laisse, peut-être que le phénomène de Laurent, la prière, c'est tout simplement d'ouvrir un espace qui laisse la possibilité à Dieu de surprendre, c'est-à-dire d'être lui-même, de donner. Enfin, il est toujours en état de don, mais de la même façon que quelqu'un... C'est Gabriel Marcel qui dit ça, je crois. On peut être à côté de quelqu'un sans être présent à lui, enfin, dans le métro par exemple, voilà. Mais c'est à partir du moment où je m'intéresse à l'autre qu'il va pouvoir être lui-même, qu'il va pouvoir donner ce qu'il a donné, et en même temps qu'il va me permettre d'être moi-même, parce que en recevant ce qu'il a donné, je me découvre capable de réception, capable de son attention, etc. Peut-être que c'est de cet ordre-là. En tout cas, c'est une très belle formule, la tournure du désir.
M'entendez-vous ?
Oui.
Nous avons là deux thèses assez dans ces cas-là. Si c'est le désir, soit le désir ouvre un espace où celui qui prie et puis son destinataire vont pouvoir prendre place, ou alors est-ce que l'espace et les lieux sont ouverts à partir desquels celui qui prie va pouvoir s'inscrire. Et là, c'est l'anamorphose. Les tests sont inversés. Il semblerait qu'il soit nécessaire de choisir.
Je pense que c'est les deux. Enfin, moi, je vais jouer la réconciliation, mais je pense que c'est les deux. Je pense que c'est une dynamique. En fait, je pense qu'il y a une dynamique qui se met en place. J'ai une image qui est très banale et très ordinaire, et ça va vous faire peut-être hurler. Mais pour moi, ça, c'est très proche. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience, sans doute. Enfin, mais en tout cas, moi, c'est une expérience que j'ai souvent. D'être confronté à la nécessité de monter un meuble qu'on m'a livré chez Ikea ou autre. Pour monter un meuble dans de bonnes conditions, si on cherche à visser trop fort tout d'un côté, on n'obtiendra jamais un meuble qui tient, parce qu'en fait, on va créer une tension d'un côté, de l'autre côté, on aura trop de jeu. Et donc, l'expérience prouve qu'en fait, pour vraiment monter le meuble, il faut le monter progressivement des deux côtés en même temps, en donnant un coup de vis d'un côté, de l'autre, et en ajustant de façon réglée et progressive. Il me semble que on a, dans ce que vous formulez, en réalité exactement ce genre de dynamique où il y a une dynamique qui fait que l'espace ne m'est donné que parce que le désir se met en place, et le désir ne se met en place que parce que l'espace m'est donné. Et ça ne peut fonctionner, si je peux utiliser ce terme pour garder la métaphore du meuble qu'on monte, ça ne peut fonctionner que de cette façon-là. C'est-à-dire que si on pose que le désir est premier ou que l'espace-temps est premier, on est déjà plus dans la bonne modalité, je dirais, d'approche de l'expérience qui est en jeu. Alors, c'est vrai qu'on est tout le temps tenté, surtout en philosophie, parce qu'on manie des concepts et qu'on manie des raisonnements, on est tenté de créer des distinctions et de créer des alternatives. Enfin, et on raisonne tout le temps de cette façon-là, et c'est très bien, évidemment. Mais en même temps, je pense que dès qu'on a formulé ce genre de raisonnement ou de distinction, la prise de conscience, c'est que cette distinction est insuffisante. Elle n'est pas fausse, mais elle est insuffisante. Elle ne permet pas de rendre compte de la réalité de ce qui est en jeu dans l'expérience. Elle peut être utile à titre de point d'appui, mais à chaque instant, on va être amené à la reconfigurer autrement, cette distinction ou cette opposition. Pour en montrer justement la dynamique, et en fait notre expérience est dynamique, sinon on raisonne finalement dans des états qui sont abstraits et qui ne permettent pas de saisir justement la complexité de ce qui est en train de se passer. Donc je suis d'accord, c'est très intéressant de le formuler comme ça, mais très vite, vous voyez, le geste qui suit immédiatement, c'est de trouver un moyen pour faire expérimenter justement ce qui est en jeu dans cette dynamique. Avec un risque autre, qui à mon avis, si on n'arrive pas à montrer concrètement la dynamique qui est en jeu, c'est de le penser d'emblée sur un format dialectique, et à ce moment-là, à nouveau, on est passé sur un plan qui reconceptualise par derrière. Et là, je pense qu'on a à nouveau perdu, on a à nouveau perdu justement l'expérience qui est en jeu. Enfin, donc c'est très délicat, parce qu'en fait, on part très vite dans des conceptualisations qui, évidemment, ne sont jamais fausses, mais qui sont toujours insuffisantes, en fin de compte. Et c'est vrai, je pense, évidemment, dans des expériences comme celle qu'a reprise Marie-Aimée, mais même dans l'expérience de la photographie que vous avez, dont vous avez rendu compte, on voit très bien comment on a besoin d'une très forte, d'une très grande attention et délicatesse par rapport à la description pour arriver à rendre compte des nervures de ce qui est en train de se décrire. Vous voyez, enfin, je pense que ça, c'est l'attention à l'expérience et à sa singularité oblige en fait à ne comment dire, à se garder des réflexes conceptualisants qui sont les nôtres, même si la conceptualité est évidemment quelque chose d'essentiel pour éviter d'être dans la confusion, on est bien d'accord. Hein. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire fructifier par rapport à ce qu'est une approche phénoménologique, en particulier, dans sa spécificité. C'est vraiment cette attention très très fine au mouvement même de l'expérience, pour utiliser un terme plus simple encore, plutôt qu'à au repérage et à l'identification d'états purement et seulement, qui nous laisse toujours insatisfaits en fin de compte, parce qu'on voit bien qu'on saisit peu de choses à travers l'identification d'un état ou d'une position, en fait, si on veut le ressaisir de manière plus plus philosophique. C'est jamais faux, mais c'est jamais complètement satisfaisant, je trouve. Enfin, voilà. En tout cas, c'est ce que j'aurais envie de dire. Je ne sais pas ce que vous continuez à changer.
Je rebondis, si je oui. peux dire. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. On n'est pas dans une alternative et pas dans une dialectique. Et pour garder la dynamique, en fait, l'image qui me viendrait, moi, c'est plus, enfin, ou en tout cas, les concepts qui peuvent nous aider à sortir de ça, c'est la polarité. c'est l'idée de polarité. C'est-à-dire que dans la polarité, il y a une tension dynamique entre deux pôles. Elle est dynamique et aucun des pôles n'est résorbé par l'autre. Mais justement, tout se joue dans cette dynamique de tension. Et c'est toujours Romano Guardini qui a écrit un livre sur la polarité, qui a vraiment mis en œuvre qui a conceptualisé, disons, cette manière de sortir de la dialectique, enfin, de penser toujours en dialectique ou d'alternative, le négatif serait pris dans le positif ou le positif dilué dans le négatif. Enfin bref, on n'est plus dans cette idée-là avec une idée de polarité. C'est vraiment des pôles qui sont en tension, sont pas toujours paradoxaux. Alors bien sûr, c'est très souvent paradoxal dans les phénomènes religieux, mais c'est pas toujours non plus paradoxal. Mais en tout cas, c'est toujours dynamique parce que ça joue de cette tension-là et qui n'est pas une tension éprouvante, enfin, qui fatigante, disons, mais qui au contraire donne de l'élan et permet de rester dans ce champ d'expérience, en tout cas qui essaie d'en rendre compte, parce que notre expérience est toujours complexe et les phénomènes de type religieux ou un peu à la marge, mais qui sont un peu originaux comme ça, ils ont besoin effectivement d'une conceptualité précise, mais qui aussi est concrète, qui est aussi ancrée dans l'expérience.
Tout à fait. Merci. Oui, bien sûr.
Par rapport à tout ce que je disais, pour moi, vous avez formulé la différence entre l'attente et l'attention. Et pour moi, justement, la surprise, elle arrive quand il n'y a pas d'attente. L'attente, pour moi, elle vient verrouiller la possibilité de la surprise, puisque l'attention permet d'être présent autant que pas présent dans un moment. Et moi, je travaille un peu là-dessus aussi, sur le trop de corps ou le pas assez de corps. Et l'attente à l'inverse vient appliquer une grille iconographique ou je sais pas quoi, qui empêche ou affaiblit, à mon sens, la pureté de la, c'est plus de l'interprétation mais de la perception du coup.
Alors merci pour cette question. Je dirais que, et bien sûr, quand on parle de surprise, on pense plus facilement à l'inattendu, donc à ce qui n'est pas attendu. Mais peut-être qu'il peut y avoir de l'inattendu si on est en ouverture d'inattendu, donc en attente quand même. Je formulerais ça comme ça, c'est-à-dire je pense que c'est chez, je ne voudrais pas dire des bêtises parce que surtout qu'ils sont enregistrés, mais il y a cette, je ne sais pas si c'est chez Héraclite ou je ne sais plus, enfin je ne me souviens plus trop, mais chez un grec, il y a cette idée de pour qu'il y ait de l'inespérance, de l'inespéré, disons, pour qu'il y ait de l'inespéré, il faut être en état d'espérer. Il y a seulement cette ouverture à de l'espérance qui va permettre l'avènement d'un inespéré. Et je pense que c'est pas complètement faux, c'est même sûrement très juste. Bien sûr, la surprise, c'est jamais exact. Enfin, on prouve que c'est jamais ce qu'on attendait comme on l'attendait. On projette, sinon ce serait de la projection, ce serait plus de la surprise, ce serait pas intéressant, mais il y a une attente qui n'est pas l'attente de ce qui va m'arriver exactement ou ce qui va, bien sûr, mais qui est en fait une ouverture à l'inattendu, voilà. Et il y a Je pense qu'il y a des choses chez Maldinet là-dessus, sur d'en penser l'homme et la folie, où il montre bien en fait que c'est la possibilité d'une transpossibilité, c'est-à-dire la possibilité de quelque chose de plus grand qui vienne chambouler tout, d'un événement qui fait l'humain. Parce qu'en fait, l'homme est toujours en état d'attendre il attend l'inattendu de cette manière. Ça n'a aucun intérêt enfin, vous voyez, si dans votre journée, vous n'attendez pas qu'il y ait quelque chose qui se passe, elle est plombée, quoi. Donc forcément, il y a une attente de l'inattendu qui est latente, en fait, à chaque instant, je dirais ça comme ça. Je ne sais pas comment dire. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de. Enfin, ce ne serait pas souhaitable de créer l'événement ou de projeter l'événement. Surtout pas. Il faut que l'événement reste un événement. Quelque chose qui est plus grand que ce qu'on aurait pu imaginer. Quelque chose qui nous va bien. Voilà. Mais l'ouverture à l'événement, elle est quelque chose qui nous type. Peut-être, sans doute. Je sais pas comment, parce que je suis un peu gênée de parler de ça à côté de ma.
Ah, mais c'est très bien, c'est très bien. Je trouve ça très bien. Je me retrouve complètement, enfin, dans ce que vous dites, Marie-Aimée. Enfin, parce que c'est vrai que dans le petit livre que j'ai fait sur la surprise, là, justement, le sujet de la surprise, ce que j'ai essayé de faire, c'est de. Alors, c'est pas forcément d'avoir une vision unifiée de ce qui se passe entre l'attention et la surprise. Parce que je pense que justement, en fonction des types de situations, il va y avoir des modalités différentes, justement, de cette dynamique. En réalité, on est plutôt confronté à. J'avais utilisé l'image de la balance, vous voyez, enfin, avec les deux plateaux de la balance et puis le fléau. Et j'avais essayé de montrer comment, dans ce petit livre, comment en réalité il y avait une sorte de régulation qui se fait ou pas en fonction du degré d'attention et du type de surprise. C'est-à-dire comme si, quand on est dans une forme d'attention ouverte, d'accueil, en réalité on crée la possibilité de ne pas être surpris. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, le moment même du maximum d'intention, l'intensité d'attention, va me rendre présente à ce qui va se produire. Et du coup, je vais être capable d'accueillir à plein quelque chose qui, pour d'autres, aurait été une surprise. Je prends l'exemple du moine zen qui donne un coup de bâton au jardinier qui est en train de faire son jardin. Si ce jardinier est en posture d'accueil, d'attention absolue, total, eh bien, le moment même où il va recevoir le coup de bâton, il ne sera pas surpris. Il va s'y attendre. Il aura créé en lui-même les conditions d'accueil de cette surprise, qui n'en est plus une du coup. En tout cas, il va y avoir une coïncidence de l'attention et de la surprise dans ce moment particulier. En revanche, si je suis dans une forme d'attention qui en réalité me fait penser à autre chose, donc je suis ailleurs, mais ça ne veut pas dire que je suis vraiment distraite, je suis simplement dans une attention à autre chose que ce qui est en train de se passer au moment même. Donc on va parler à ce moment-là peut-être de distraction, mais ce n'est pas forcément une opposition à l'attention, mais c'est une autre forme d'attention. Eh bien, je vais sursauter si j'entends un klaxon à l'extérieur. Donc là, je vais avoir un choc qui va créer emblématiquement une surprise sur la forme même physiologique la plus extrême. Donc par exemple, ça c'est des modèles opposés où on voit bien qu'il y a un lien, c'est-à-dire que dans les deux plateaux de la balance, en fait la surprise va venir extrême parce que la tension aura été diminuée, la tension aura été affaiblie parce qu'elle sera portée ailleurs, elle sera plus centrée en moi-même, elle sera portée sur un autre objet, et donc du coup la surprise va être amplifiée de ce fait. Donc il y aura un décalage complet. Hein. On peut dire au contraire que si l'attention est maximale, donc si elle est rehaussée au niveau du plateau de la balance, eh bien la surprise va se trouver d'autant plus réduite, d'autant plus diminuée. Donc en fait, je pense qu'il y a dans tous les cas de figure, comment dire, il y a une dynamique entre l'attention et la surprise, mais à chaque fois, en fonction des situations, elle va prendre des formes qui vont être plus ou moins, elles vont s'articuler différemment. Donc je suis d'accord sur l'idée générale que, en réalité, effectivement, comment dire, la structure de notre expérience met en place un horizon d'attente. Ça, c'est très husserlien. En fait, un horizon de notre expérience. Nous sommes toujours dans un horizon de quelque chose qui va se produire. Et c'est vrai de façon très ordinaire. Enfin, ça, c'est la structure de notre expérience. Et sur cette structure se déploie un contenu qui sera toujours nouveau, qui sera irréductiblement nouveau, quoi qu'on fasse. Donc ça, on peut dire que là, peut-être, il y a un modèle général qui est vrai à tout instant et qui est même vrai, d'ailleurs, même quand je suis exemple, par exemple, pour les étudiants, quand vous attendez un sujet de dissertation qui va vous être proposé, vous ne savez pas quel est le sujet, vous avez une attente, vous ne connaissez pas le contenu. Miracle, si je puis dire, le sujet que vous recevez est exactement celui que vous avez préparé la veille. Donc là, on pourrait dire, il n'y a pas de surprise. L'attente est comblée. En fait, elle correspond exactement, le contenu correspond exactement à ce qui était, entre guillemets, attendu, mais dans le contenu inattendu. Sauf que, même là, même dans ce cas de figure, en réalité, je suis, on va dire, comblée au-delà de mes attentes. C'est-à-dire qu'il y a à nouveau quelque chose qui va, en méta, excéder ce que j'avais pu imaginer ou justement attendre de ce qui allait se produire. Donc là, c'est comme en excès, il y a quelque chose qui se produit et dont le contenu va être à nouveau irréductible à ce qui était en jeu dans la structure même de mon attente. Donc même dans ce cas-là, c'est une objection qu'on nous avait faite dans le programme de recherche que je dirigeais à un moment donné, en nous disant, mais quand il y a adéquation complète, quand le contenu est totalement adéquat à la structure d'attente, il n'y a plus de surprise. Et là, j'avais pris cet exemple justement pour expliquer. Ben, en fait, non. Si vous faites vous-même l'expérience, vous vous rendez bien compte que vous recevez un sujet de dissertation qui est exactement celui que vous avez travaillé la veille. Aux surprises, la surprise n'est pas du tout abolie. Elle n'est pas du tout annulée. Elle reste entière. Ça semble paradoxal, mais en réalité, on comprend bien que si la structure de notre expérience, elle est forgée comme cela, ça semble évident que, bien sûr, il va y avoir une surprise de toute manière. Donc, voilà, ma réponse, ce serait ça, en fait. Ce serait de dire, il y a un modèle général. Après, en fonction des cas de figure, il va y avoir des curseurs qui vont être plus ou moins accentués et qui vont, justement, créer la dynamique, en fait, à nouveau. C'est ça qui est passionnant. C'est que mon expérience n'est pas homogène ni monodrome, enfin, je dirais. Et c'est ça qui est assez fascinant, en fait, dans ce genre de variations. Hein. Donc je suis d'accord pour dire que effectivement au sens premier, on va dire que la surprise c'est l'inattendu, mais c'est vrai que c'est dans une vision qui reste très abstraite de la dynamique même de ce processus d'attention et surprise. Donc je pense que ça c'est contre-intuitif effectivement de dire que cette conception de on va rendre synonyme attention surprise et inattendu. Ça semble évident, ça semble être une sorte d'évidence que oui, la surprise c'est l'inattendu, mais en réalité on voit bien que si on commence à structurer les choses et à les penser de manière un peu plus élaborée, on se rend compte qu'il faut revoir cette première idée, quoi. Je suis tout à fait d'accord, donc je suis complètement d'accord avec vous et je vous renvoie à mon petit livre Le sujet de la surprise qui parle beaucoup de ça et qui vous intéressera, je pense. voilà, merci Timothée pour votre retour. Bon, je pense qu'on va peut-être arrêter cet échange passionnant qui du coup nous...
Moi j'ai la liturgie qui m'attend.
Alors voilà, donc vous allez être confronté à l'expérience, c'est très bien. Merci Al pour votre question qui du coup, vous voyez, a donné lieu à beaucoup de compléments et d'échanges et passionnants. Voilà, on va devoir se quitter, ça va être triste, mais on va se retrouver et ce sera très bien. Merci Alexis. Merci vraiment à tous et à toutes pour toutes ces présentations extrêmement riches et tous les échanges qui ont suivi. Donc, je suis un petit peu désolée d'avoir dû avoir un rythme de présentation un peu trop peut-être strict au début de la journée. C'est le bénéfice de celles et ceux qui ont pris la parole plus tard dans la journée où on avait un peu lâché la rigueur du temps. Du coup, vous avez parlé tard, mais vous avez eu plus de temps.
Merci en tout cas d'avoir organisé cette journée et à tous ceux qui sont intervenus en ayant vraiment pris soin de nous proposer des choses de qualité. Merci. Aussi pour ce format que je trouve pas mal, enfin moi ça m'arrange, j'avoue. Mmh. Depuis le monastère, c'est pas mal de pouvoir être là quand même. Mmh. Et d'avoir vu certains de vos visages.
Voilà, on a pu avoir une plateforme qui a fonctionné avec une petite angoisse vers la fin, mais finalement réparée très vite. Merci à tous les étudiants qui nous ont rejoints, qui étaient là présents, attentifs. Merci à vos questions, pour vos questions également. Donc je vous enverrai, comme j'ai dit, toutes les présentations.